dans le TV.
Il a raison, il a raison.
Premier train, c'est 50 km, Pont d'Or.
Et bientôt plus d'hôpital.
Donc en fait, on est une sous-préfecture en train de mourir, quoi.
Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité.
Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien.
Et c'est une autre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil.
Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, on comment tenir à la gendarmerie, comment tenir à tous les services publics.
On ne demande pas le grand soir, hein. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça. Mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre.
Salut, c'est Daniel Mermez, et là-bas, j'y suis avec Charlotte Perry. L'État démantelé, une révolution silencieuse. Flight number 2, arriving from
New York.
Vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand. Terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
Ouais, il est midi et demi, et nous voilà arrivés à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. On a fait 3h30 de train pour arriver jusqu'ici. Mais Clermont, ça n'est pas notre destination finale. Nous, on va à Ambert, à une centaine de kilomètres de Clermont. C'est l'une des 4 sous-préfectures du Puy-de-Dôme. Et si on va là-bas, c'est parce qu'une auditrice, Michel, nous a laissé, voilà quelques jours, un message sur le répondeur, nous alertant d'une série de disparitions qui ont lieu sur le territoire d'Ambert et dans la vallée. Alors on s'est dit qu'on allait aller enquêter sur ces disparitions étranges qui ont lieu depuis environ 3 ans, nous a-t-elle dit. Et pour cela, le mieux c'est de nous rendre à Ambert. Ah, accueil.
Bonjour
madame, je cherche le train pour Ambert, s'il vous plaît.
Alors le départ est à 13h05 et ça sera un autobus sur le parking.
D'accord, parce que j'aime pas trop le bus, il n'y a pas un train plutôt?
D'accord. Okay. Malheureusement pour Ambert, non, alors attendez, on va regarder.
Okay.
Malheureusement vous aurez toujours une partie en bus à effectuer.
Il n'y a pas de train à Ambert, il n'y a pas de gare?
Non.
C'est une grande ville quand même Ambert, non?
Oui, peut-être, mais il n'y a pas de train.
Voilà, ah bon, parce que j'ai vu des photos de la gare, moi, en regardant sur le site touristique.
Ah oui, très jolie gare, mais qui est desservie par des bus.
Ah.
Pas en train.
Ah d'accord, bon, merci madame.
Bonne journée,
au revoir. Bon, on va y aller en bus, hop. Bonjour madame, c'est bien le bus pour Ambert?
Oui.
Ah, d'accord, merci. Je fais un reportage sur une série de disparitions qui a eu lieu dans le coin d'Ambert, vous êtes au courant?
Non, pas du
non
tout.
Des étouffements, une lente agonie, vous avez jamais entendu?
Ah, non.
Non,
non.
Ah, bon. Non. Bah, je vais aller enquêter pour voir.
Sorry.
C'est pas grave. Bon, merci.
Les montagnes, l'Auvergne, la fourme d'Ambert, la forêt. Vous la voyez, la forêt, la petite auberge, près du moulin, avec les glycines. Oh, les platanes, la pétanque, Le petit train là-bas, le petit train. Le petit train découverte. Avec mamie bronzée et papy en velours côtelé. Oh, oh, oh. Ouais. Ça, c'est l'Auvergne pour la pub, c'est le décor pour le feuilleton. Mais en vérité, la maternité ferme, l'école va fermer, la poste, il n'y en a plus. Le tribunal, il faut faire 100 kilomètres. Lente agonie d'un petit pays. Et ce que je vous dis là, c'est valable pour plein d'endroits dans notre beau pays. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Parce qu'il est gros, parce qu'il est gras, parce qu'il est malade. C'est qui? C'est l'État. Il faut le saigner, il faut le faire maigrir, il faut le faire pédaler. Qu'il ait des beaux mollets bronzés, musclés dans la compétition internationale. Vous savez pourquoi les Français ne sont pas sportifs? C'est la question que posait Olivier Mazerolle en 1994 devant les mauvais résultats des athlètes français aux Jeux Olympiques. Hein? Pourquoi les Français ne sont pas sportifs? Eh bien voilà la réponse d'Olivier. Les Français ne sont pas sportifs parce que nous avons l'habitude de l'État-providence. Voilà la raison. 1994. Eh oui, c'est une évidence. Il faut s'adapter, le monde a changé, il faut savoir être pragmatique, il faut savoir moderniser la fonction publique et réformer l'État et sabrer, tailler, couper et cogner dans le tas. Ah non, 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 non. Pas comme ça. Il faut s'y prendre calmement, en douceur, du doigté. Vous prenez la grenouille par les pattes de derrière, vous la mettez dans l'eau froide et vous chauffez peu à peu. Vous avez le temps. Le temps, c'est que... Se méfie, ces Français. Ces Français profonds se méfient. Ils sont attachés à leurs services publics, la poste, l'école, l'hôpital, tout ça. Ils y tiennent. C'est de l'histoire ancienne, très très ancienne. Le bien public, la révolution, la république, c'est dans leur ADN. L'égalité, ils y tiennent au fond, les Français. La solidarité, la sécurité, tout ça, ils y tiennent beaucoup. Alors il faut y aller par étapes, par contournement, pas de vagues. Et c'est ce qui se passe depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Peu à peu, l'État se démantèle, l'État est démantelé. Et avec Charlotte Perry, nous voici à Ambert, suite à ce message d'une auditrice. On va voir que c'est pas forcément foutu cette histoire. Parce qu'il n'y a rien d'inexorable là-dedans. Ce démantèlement de l'État, c'est jamais après tout que des idées assemblées, qu'on appelle une idéologie comme une autre, rien d'obligatoire là-dedans. Et ils l'ont très bien compris, ces Français profonds de cette région parmi d'autres. Ils résistent, ils s'opposent et ils mènent le combat, pas forcément perdu d'avance. C'est avec eux qu'on va se balader au cours de cette heure. Et puis avec cette petite phrase, comme une, une petite gâterie avant de démarrer. Combien de fois on nous a dit sur le terrain, comment se fait-il que ce monsieur-là, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est toujours au chômage ou qui a le RMI, peut se payer une voiture que son voisin, qui lui se lève tôt le matin pour travailler, ne peut pas se payer? Vous avez reconnu la prose de Nicolas Sarkozy. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis.
Dédicacé à tous ceux qui viennent des petits patelins. Ces petits patelins paumés que même la France, elle sait pas qui sont là chez elle. Les petits patelins paumés que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Perdreau. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle Marly Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat 1 qui fait. À Marly Gaumont, y'a pas de béton. 65 ans la moyenne d'âge dans les environs. Un terrain de tennis, un terrain de basket,
trois jeunes dans le village, donc pour jouer c'est pas chouette. Je viens d'un village paumé dans l'Aisne, en Picardie, facilement. 95% de vaches, 5% d'habitants et bon. Je viens pas de la cité, mais le beat bon. Je viens pas de Paname, mais de Marny, comment. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Dans les petits patelins, faut pas être cardiaque, ouais, sinon t'es mal. Faut traverser ma village en tout 50 bandes pour trouver un hôpital, que dalle. Là-bas y'a rien, c'est des pâtures. Des fois y'a un match de foot le dimanche, le stade c'est une pâture. Sur lesquelles les lignes sont tracées, les buts sont montés et les filets. Et dans l'équipe du coin, y'a toujours un mec qui se fait surnommer Kéké.
Allez Kéké, allez Kéké.
Si c'est pas Kéké, dans l'équipe d'en face, y'a toujours un mec qui s'appelle Biquet.
Allez Biquet, allez Biquet.
Une journée type dans le coin, le facteur, un tracteur et un rien.
Ça va et vous ?
Ça va. Ça a été long pour venir.
3h30 de Clermont, et puis 1h30, c'est plus long pour aller à Londres ou à New York pour venir chez vous.
Et oui, c'est comme ça.
Alors moi, je suis venue ici parce que vous, Michel, vous nous avez laissé un message sur le répondeur de l'émission en nous disant qu'il y avait des disparitions qui avaient lieu dans la région, une lente agonie.
Voilà, c'est ça. Petit à petit, on va disparaître tous nos services publics. Donc je vous l'ai dit, la Poste. On a perdu le tribunal l'an dernier. Tout se restructure. La gare, il y a déjà, c'est déjà ancien. Hein. Il y a déjà une dizaine d'années qu'il n'y a plus de train. Le bruit, là, c'est pas un train de voyageurs.
Ah, c'est quoi c'est ça?
C'est eux qui doivent faire des tests sur le train de Agrivap. C'est le train du Livre d'Aforez qui fait des découvertes touristiques.
Ah, c'est le train des touristes, ça.
Des touristes, voilà. Et puis. Donc c'est au niveau des écoles, il y a plein d'écoles qui ferment au niveau des collèges, puis des écoles primaires dans les villages. Quand ils estiment qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves, ils regroupent. Donc un bourg qui n'a plus d'enfants, c'est un bourg qui meurt, quoi. Il y a quelques commerces qui essaient de... Il y a des efforts, les communes font des efforts énormes pour remettre en place des commerces, etc. Seulement, c'est difficile, quoi, pour eux. Et je pense qu'ils sont aussi désarmés vis-à-vis de ce qui se passe, parce que comment essayer de sauver ces services publics, ces services qui ont toujours existé et qui disparaissent, quoi. Je ne sais pas, le tribunal il était là depuis 1800 et quelques. On avait les prud'hommes hier, les prud'hommes ont disparu aussi. Alors quelqu'un qui a un conflit avec son employeur, s'il a seulement un petit conflit, etc., c'est pas une grosse affaire, est-ce qu'il ne va pas hésiter à aller à Clermont, où il va arriver, l'affaire sera peut-être envoyée, il faudra qu'il revienne, etc. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident.
Alors, il y a deux tribunaux qui ont disparu, celui des prud'hommes et le tribunal d'instance.
Le tribunal d'instance, ici, voilà, qui a disparu aussi. Et je pense qu'au niveau de la santé, ils suppriment des services. On ne supprime pas l'hôpital, on vous le dira, on ne supprime pas l'hôpital. Mais les uns après les autres, nous, on a perdu la maternité. Ensuite, on a la chirurgie. C'est un hôpital d'une qualité avec du personnel qui est dévoué. Un hôpital où on est bien reçu, un hôpital où on ne fait pas la queue aux urgences, un hôpital où il y a des compétences. Et tout ça, on veut nous le supprimer. Donc, si on le défend, on a des raisons. On a des raisons. Sinon, on ne ferait pas tant d'efforts. Hein. J'ai eu mon permis ici, il y a 40 ans. Je ne voudrais pas le perdre ici.
Alors, on quitte la gare d'Ambert.
Je vais vous amener à la mairie ronde, parce que la mairie ronde à Ambert, c'est une curiosité.
Vous êtes née à Ambert ?
Moi, je ne suis pas née à Ambert, je suis née à Ricombraille. Je suis née à Landogne.
Ah, c'est dans le nord de l'Auvergne ?
Oui, voilà. Vers Pont-au-Mur, là-bas. Non, je suis venue travailler à la Poste quand j'avais 18 ans, dans le coin, à Saint-Anthème. C'est pas original, j'ai épousé le fils du facteur. C'est quoi ? Et puis, après, la vie... J'aimais beaucoup cette région, donc après, on venait en vacances et nous avons acheté une maison ici, quoi, que mon mari a restaurée. Et on est revenu à la retraite il n'y a pas très longtemps, il y a 6 ans. Enfin, on venait tous les week-ends, quand même.
Et vous avez travaillé à la Poste toute votre vie, alors ?
J'ai travaillé chez Michelin.
Et qu'est-ce que vous faisiez chez Michelin ?
Employé de bureau. Et j'ai beaucoup milité... J'étais déléguée du personnel, déléguée syndicale.
C'était quel syndicat ?
Au début, la CFDT, puis nous avons eu quelques petits problèmes et nous avons passé à Sud.
Alors là, on est arrivé
à la mairie ronde.
C'est la mairie d'Ambert.
Qui était la mairie qui a été rendue célèbre par Les Copains. Il y a eu un film, Les Copains, aussi, qui a été tourné ici. Et après, la chanson les copains à bord.
De Brassens.
De Brassens, je crois qu'il y avait une petite relation.
À la boulangerie est fermée, le bar des sports est fermé.
La boulangerie est en congé.
Ah, ils sont les vacances.
Mais non, c'est quand même pas encore. Il y a encore des industries dans notre coin. D'ailleurs, on a Ventis qui doit avoir 600 emplois sur Vertolaye. Puis,
c'est les laboratoires, Ventis.
Les laboratoires, oui. Après, on a quand même pas mal de petites industries. À côté de chez moi, sur la Chapelle-Agnon, une papeterie. Mais n'empêche que si on perd des services publics, etc., la situation ira en se dégradant. Il n'y a pas de mystère. Hein. Si les jeunes ne trouvent plus de travail, quand on ferme une administration, c'est des gens qui s'en vont. Ils sont mutés, ils partent ailleurs. C'est des familles. Je crois quand même qu'il faudrait que ceux qui décident, ils essayent de voir les conséquences des décisions qu'ils prennent.
Et l'hôpital, alors là, il est où ? C'est beau les montagnes derrière, là. Hein ?
Oui, hein. Alors la maternité était ici. Qui a fermé, elle était ici.
Donc là, on est rentré sur le site de l'hôpital, c'est ça ?
On est rentré sur le site de l'hôpital depuis en bas. Là, nous avons la chirurgie, les urgences, le SMUR. Il y avait la psychiatrie et là, il y a la médecine. Pour fermer un hôpital, il y a toute une technique. Hein. On a commencé déjà il y a de nombreuses années à expliquer que dans ces hôpitaux de proximité, il n'y avait peut-être pas la sécurité qu'on retrouvait ailleurs. On fait des pressions sur les médecins pour qu'ils partent. Et bon, bah après, il ne reste plus qu'à fermer les services, quoi. Et on est en train de vider notre territoire de sa vie. Alors, en plus, sur la région Auvergne, Ambert est menacé, Thiers est menacé, Riom est menacé, Issoire est menacé, Brioude est menacé et Saint-Flour est menacé.
C'est tous les hôpitaux de la région.
C'est tous les hôpitaux de la région, donc qui sont menacés, qui n'auront plus de chirurgie. Et nous ne sommes pas les seuls, parce que dans la France entière, c'est comme ça, si nous étions les seuls. Mais toutes les petites structures de proximité disparaissent. Il faut se révolter. Moi, je suis pour payer mes impôts, je les paye. Je ne les paye pas en Suisse. Je les paye et je suis contente de les payer si j'ai des services publics. Si c'est pour envoyer ministres et présidents se balader dans leur truc, moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Il faut vraiment que des voix s'élèvent quand on n'est pas d'accord. Sinon, puis la résignation, on en crève.
Le petit hôpital de Saint-Flour dans le Cantal,
France 3,
a son propre bloc opératoire. Les chirurgiens effectuent ici 1700 actes par an.
19 avril 2006.
Ce bloc répond-il aux critères de qualité et de sécurité requis ? Pas sûr, répond ce professeur de médecine, auteur d'un rapport qu'il vient de remettre au ministre de la Santé. Il a recensé 113 petits hôpitaux répartis dans toute la France, réalisant moins de 2000 interventions par an.
Il y a parmi ces hôpitaux certains dont il faut corriger un défaut.
Professeur Guy Valencien.
À ce moment-là, on peut prendre quelques semaines, quelques mois et revoir à 6 mois et 1 an et dire « Ok, maintenant vous êtes revenu aux normes ». Et il y en a qui sont vraiment dans une situation, effectivement, qui n'est pas admissible dans un pays moderne comme la France, qui se targue de qualité médicale.
Selon le rapport, ces derniers blocs doivent impérativement fermer. Une proposition accueillie comme une menace par certains petits hôpitaux.
Donc, Michel Prat, je suis chirurgien depuis une trentaine d'années.
Donc, vous avez été chirurgien à Ambert pendant 27 ans. Vous êtes parti en 2009 de l'hôpital d'Ambert.
J'ai quitté l'hôpital d'Ambert parce qu'à mon avis, les conditions ne permettaient pas de travailler de façon satisfaisante à mon goût pour de la chirurgie digestive en particulier, dans la mesure où il n'y avait plus d'anesthésiste en permanence sur place et où le bloc était fermé la nuit, le week-end. Alors certes, on fait le tri des malades qu'on peut opérer sur place où théoriquement il n'y aura pas de souci. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr qu'on n'aura pas à reprendre le malade parce qu'il saigne le soir. Si on n'a pas d'anesthésie sur place, ça devient un peu scabreux. Il faut transférer le malade à 50 km. Donc là, c'est des transferts SAMU sur un malade qui a priori saigne. Donc ça devient scabreux et un peu dangereux.
Voilà, Michel Prat nous explique, ce chirurgien, comment les choses se sont passées. Mais ce que je disais en commençant, pour faire cuire la grenouille, vous la mettez dans l'eau froide d'abord et doucement vous la faites cuire. C'est-à-dire qu'il y a sur ces histoires des détériorations de la qualité, de la sécurité, dans un hôpital comme ça, des petits hôpitaux de proximité, c'est toujours la même histoire. On laisse se détériorer et après on dit qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est la version des uns. Et la version des autres, c'est de dire non, c'est impossible, c'est plus possible d'entretenir ces petits hôpitaux, la technique, la technologie est telle que ça devient trop coûteux et il faut faire des regroupements. Tout est l'histoire du passage de l'État-providence, du service public au management, qui n'a qu'un seul but, la rentabilité comptable. Mais le service public, c'est pas seulement la rentabilité comptable. C'est ça la lutte à laquelle nous assistons, qui n'est pas perdue, encore une fois, avec des gens comme Michel, notre auditrice. On voit que le combat continue. Explication du chirurgien.
Le but était quand même de faire en sorte qu'à terme, la chirurgie disparaisse vraisemblablement à Amberg, comme dans pas mal de petites villes. Une fois qu'il y a plus de médecins, par exemple, vous voyez bien, ça ne peut plus tourner.
Alors, vous, aujourd'hui, vous avez quitté le service public?
Oui, j'ai quitté le service public après avoir fait pratiquement toute ma carrière dans le service public. J'ai l'impression que le public, depuis quelques années, a pris, on peut dire, le mauvais côté du privé à vouloir jouer beaucoup le côté rentabilité économique. Enfin, ou si on n'est pas rentable, de disparaître. Dans des régions comme ici, on a pas mal de personnes âgées, de gens fragiles, on dépend pas mal de l'urgence, donc ce n'est pas des activités qui sont très rentable de ce côté-là. Je pense qu'on va aboutir à des regroupements pour la chirurgie. La chirurgie se fera dans les grandes villes, dans les grands centres, où vraisemblablement, moi je vois assez bien venir dans un avenir relativement proche, dans la majorité des départements, un gros centre public, un gros centre privé au chef-lieu du département, où ça sera ce que j'appelle un petit peu des usines à opérer, où les gens seront opérés et seront renvoyés très rapidement, soit chez eux, soit pour les gens qui doivent rester hospitalisés plus longtemps. À ce moment-là, ils seront renvoyés sur les hôpitaux périphériques, dans des services de suite de soins. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de fermeture d'hôpitaux. L'hôpital d'Ambert ne fermera jamais, comme l'ensemble des hôpitaux de la région. Par contre, il ne fera plus les mêmes types d'activités. Voilà, il s'occupera beaucoup de convalescence, de gériatrie. Plus les choses vont aller, plus ça va être difficile de faire venir des gens. C'est un cercle vicieux. Plus vous supprimez des services publics, moins les gens ont envie de venir. Donc ça ne facilitera pas l'installation de médecins généralistes dans les années à venir, peut-être même à Amberg. Je ne vous parle pas des deux versants côté Livradois ou Forêt, où les médecins qui sont encore en activité, qui pour la majorité ne sont plus très jeunes, je crains fort qu'ils ne soient pas remplacés quand ils vont partir en retraite.
Son clocher, son école, sa place, ses cafés, son crédit agricole est juste à côté. Sa mairie fleurie, son microclimat, sa gendarmerie, pas de cinéma, son hôtel, le Lion d'Or, son camp de manouche. La ville s'endort, pas de quartier louche, ses concours de pêche le long du canal, ses gens dans la dèche, son artiste local. De père en fils, ces bouquets miteux de feux d'artifice, sa grande surface, rue de l'avenir, une dédicace des jours à venir. Ohé, les amis, ma vie est ici. Bienvenue à Rio Barilla. Bienvenue.
Et alors là, on va où?
On va aller Bertignat pour trouver Sophie.
Sophie, vous la connaissez comment?
À travers le comité de défense et de développement des services publics. C'est un comité qui s'est créé pour défendre les services publics en 2008.
Ah mais en fait, on est juste à l'orée de la forêt à Ambert.
Ah là oui, ça s'appelle, on appelle ce coin le bois de Boulogne. Alors je ne sais pas pourquoi il a cette réputation. Et là, c'est une petite chapelle. Nous avons beaucoup de chapelles, c'était très religieux. D'ailleurs, on a fait des chapelets, il y avait des industries, plusieurs industries de chapelets. Et les femmes, les paysannes notamment, dans les fermes, elles faisaient les chapelets. C'était du travail à domicile. Ça s'appelait monter les chapelets. Elles montaient les chapelets, elles étaient payées à l'unité pour les entreprises locales. Il s'en fait encore quelques-uns, mais c'est juste maintenant pour Jean-Pierre Pernaud. Mais il s'est fait du chapelet, il s'est fait beaucoup de dentelle aussi. La dentelle du Puy qui est renommée. Les femmes faisaient de la dentelle au carreau. Et après, il y avait c'était les industries papetières.
Ouais, qu'est-ce que c'est beau.
On a une très très belle vue sur Ambert. Mais regardez si c'est joli.
Mais c'est magnifique, c'est que des vallées en fait.
Oui, c'est très vallonné. Alors là, nous sommes sur la route de Gaspard des Montagnes. Gaspard des Montagnes, c'est un roman qui avait été écrit par Henri Pourrat. Ceux qui aiment les romans contemporains vous diront que c'est vieillot. Mais ça vaut le coup d'être lu parce qu'on retrouve un peu cette mentalité qui est encore prégnante chez les personnes âgées. Quoi. Mais peut-être pas que chez les personnes âgées d'ailleurs. Il y a toute une culture, il y a des racines très profondes ici quand même dans la mentalité des gens.
Bertignat, c'est où?
On voit le clocher de l'église. Il est ici, là, il dépasse. Voilà, Bertignat. Il y a une petite usine. Je ne sais pas, entre 20 et 30. Je ne sais pas exactement le nombre de salariés. Ils font des tresses. C'est de la haute technologie. Hein, et ça a été mis en place par des gens du pays.
Ah oui, ça fait vraiment petit village.
C'est un petit village, oui. C'est...
Avec les montagnes enneigées derrière.
Voilà, notre auditrice, Michèle Laurent, secrétaire de l'association DEBHA, Dynamisons Ensemble l'hôpital du bassin d'Ambert, nous fait rencontrer à Bertignat Serge Boissière, secrétaire du CDDSP, Comité de défense et de développement des services publics, créé en 2008.
Là, c'est la boulangerie-épicerie du village, c'est ça?
Voilà, le multiple rural, là, on appelle ça.
Ah!
Voilà. Où il y a plusieurs...
Bonjour.
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 Qu'est-ce que vous voulez voir? Un café.
Donc vous, vous appelez comment?
Sophie Boissière. Je travaille dans l'éducation nationale. Je travaille à mi-temps et mon autre mi-temps, je le donne bien volontiers pour la défense des services publics sur le Livradois-Forêt, puisque je suis secrétaire du CDDSP Thiers-Ambert.
Le CDDSP, c'est quoi alors?
Alors, collectif de défense et de développement des services publics sur le territoire Thiers-Ambert. Toute cette politique de démantèlement des services publics s'appuie à la base sur une politique mise en place par le gouvernement qui s'appelle la révision générale des politiques publiques et qui vise une rationalisation des dépenses de l'État. Alors après, je suis pas sûre qu'en termes d'économie en général, ce soit réellement efficace parce que si on ferme une école, d'accord, sur le budget de l'État, il y a moins d'enseignants, mais sur le budget du Conseil général qui s'occupe des transports, il y a une augmentation du transport. Donc, pareillement pour l'hôpital, prévoir moins de lits en chirurgie dans un endroit de proximité, c'est amener les gens sur la route ou par un transport avec le SAMU. Et là aussi, il y a un transfert. Ce n'est plus dans le budget de l'hôpital, c'est dans le budget de la sécurité sociale. Donc, en termes d'économie réelle, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie économie. Voilà. Mais bon, ça répond tout à fait à un effet d'annonce qui avait été dit, hein, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire sur deux ne serait pas remplacé. Voilà, et on est dans l'application stricte d'un programme. Ce qui m'a poussé, moi, dans la démarche, j'ai une haute idée de l'administration. Pour moi, c'est vraiment l'État dans ce qu'il y a de plus beau. Et j'ai du mal, vraiment du mal, quand ces administrations qui sont censées nous représenter, nous défendre et... Nous en sommes les usagers, c'est-à-dire que ce sont nos administrations nous mentent. nous mentent et nous roulent dans la farine.
Quand est-ce que vous avez senti qu'on vous mentait, justement ?
On a eu à traiter un problème très difficile, justement, de fermeture de classe. Moi, je suis peut-être d'une nature curieuse, mais au bout d'un moment, quand je vois quelque chose qui me semble aberrant, je vais chercher les textes. Et quand on lit les textes et qu'on regarde les arguments qui nous sont adressés, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un écart et vraiment, il y a la politique de si ça passe, ça passe. D'où l'importance d'avoir une action d'éducation citoyenne la plus large possible, de façon à ce qu'on soit éveillé. Donc, ce qu'on essaie, nous, de défendre quand on défend les services publics au sens large ou à certains services publics, c'est de dire qu'en fait, notre devise républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité, la main d'œuvre de cette devise, comment la mettre en pratique, ce sont les services publics. Parce qu'elles permettent de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Qu'on soit riche ou pauvre, on peut aller se faire soigner à l'hôpital public, ça reviendra au même prix. Que l'on soit riche ou pauvre ou éloigné, on payera son timbre au même prix. Pareil pour la justice. Si la justice s'éloigne, la justice, c'est quand même la marque de fabrique d'une société civilisée. Puisque quand il n'y a pas de justice, ce qui marche, c'est la revanche, c'est la vengeance. Donc si la justice s'éloigne, est-ce que les gens qui ne vont pas pouvoir y aller vont recommencer à avoir des phénomènes et des envies, des réflexes de vengeance? Voilà, c'est au-delà, quand on parle de service public et de démantèlement de service public, il y a vraiment une question de société. Et ça veut dire aussi, au minimum, qu'on est pour une économie mixte, avec tout ce que ça veut dire par derrière, de régulation. On avait pas mal râlé quand il y a eu la crise financière il y a quelques temps, où le gouvernement reconnaît que les services publics sont des amortisseurs sociaux, qui nous ont évité de prendre la crise de plein fouet, mais où il n'y a pas d'inflexion de la politique de casse des services publics. Ça veut dire qu'on le dit, mais on n'intègre pas les conséquences.
Nom de code RGPP pour la révision générale des politiques publiques.
LCP.
L'objectif est de remettre à plat le fonctionnement des administrations et de les restructurer pour améliorer leur efficacité à moindre coût.
23 juillet 2008.
Autrement dit, comment faire mieux avec moins ? Si Nicolas Sarkozy promet le retour à l'équilibre des finances publiques en 2012, la révision générale des politiques publiques n'est qu'un moyen parmi d'autres pour y arriver. Police, défense, justice ou éducation, tous les ministères sont concernés. L'objectif reste le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, mais pour le moment, aucune information sur le résultat des audits et les réductions d'effectifs chiffrées, ministère par ministère. Coup de com' ou opération coup de poing, le dossier des RGPP est l'un des plus gros chantiers du mandat de Nicolas Sarkozy.
Alors, juste explique-moi, on est où ici ?
Alors ici, c'est une réunion de débat de l'association débat.
Dynamisons ensemble
l'hôpital du bassin d'Ambert. Et nous devons parler autour de l'hôpital, autour de ce qui s'est passé, des menaces de fermeture du bloc opératoire, de la réorganisation en cours, etc. Donc on doit faire le point et puis voir comment on s'organise par rapport à ce qui se passe actuellement dans l'hôpital. Et préparer aussi la manifestation nationale du 2 avril à l'appel de la Coordination nationale des hôpitaux de proximité et de nombreuses organisations qui doivent se passer théoriquement à Clermont-Ferrand. Mais peut-être qu'on va en faire une sur Ambert, on va voir.
Voilà, ça résiste en tout cas dans ce pays. Sophie Boissière vient de nous faire une analyse très fine, très pointue. C'est pas facile face à l'administration, à la noblesse d'État, à tout cet appareil intimidant, de construire une analyse et de douter de l'efficacité, même en termes de rentabilité, en termes d'économie réalisée, de cette immense réforme. Donc nous voilà, cette fois-ci, revenus à Ambert avec Michel, notre auditrice.
Vous vous appelez comment ?
René Mazocolin. Ah, moi, je suis retraitée d'EDF. On a appris qu'à Montluçon, il y avait donc le chirurgien ophtalmo qui intervenait donc à la polyclinique en face de l'hôpital public, donc qui fait partie du groupe Vitalia, qui est financé par des fonds de pension américains. Donc ce chirurgien opérait en privé. Donc ce monsieur a arrêté ses interventions du public. On a appris aussi que l'urologue du public partait. Et qu'il y avait aussi, n'est-ce pas Michel, un problème en ce qui concerne la cardiologie du public à Montluçon. Alors que les lits libérés seraient repris par la cardiologie effectuée à la polyclinique. C'est tout à fait ce qui est préconisé par la loi hôpital santé patient territoire, puisqu'on fait des groupements et qu'on fait entrer du privé dans du fonctionnement public. Et donc, apparemment, après, les gens sont peut-être surpris, mais on se sert des fonds publics de ce qui a été financé par l'État pour rentabiliser au niveau du public, au niveau du privé. C'est quand même inadmissible. Et on essaye de faire monter un peu la mayonnaise et faire comprendre aux gens le devenir de la santé et la casse des structures pour une rentabilité au privé.
Vous vous appelez comment ?
Jean-Claude Moillier.
Je travaille à France Télécom sur Saint-Étienne. Pourquoi sur Saint-Étienne ? Parce que j'avais demandé à revenir travailler sur Ambert. Et Ambert, j'y reviendrai, j'y tiens pourtant. J'y reviendrai pour la retraite, quoi, s'il reste encore quelque chose. Parce que, étant donné qu'il n'y a plus d'emploi à France Télécom sur Ambert, voilà, je suis sur Saint-Étienne. Et plus ça va, plus je vais même sur Lyon, parce que les activités glissent de plus en plus. Parce qu'au sein de France Télécom, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement ? Tout ce qui est service, on pourrait appeler de proximité, eh bien, c'est tout rassemblé dans les grands centres. Et puis, on organise de superbes plateaux, d'immenses plateaux où les gens sont agglutinés. Et puis donc, tout se passe par téléphone, et ce sont des gens qui sont loin du terrain, qui ne connaissent absolument pas la réalité du terrain. On voit bien la spirale infernale. On voit bien la spirale infernale. Sauf que les agents, les employés, on les déplace, on les recentre sur Lyon. Seulement, les clients, eux, ben, ils restent, mais ils restent démunis. Il faut savoir que le réseau, eh bien, chaque Français, hein, chacun de nous, ben, on se fait payer. Ce réseau, il nous appartient. Bon, que je sache, quand France Télécom a été privatisé, on n'a pas organisé de référendum, il n'y a pas eu de question de poser, à savoir, qu'est-ce qu'on en fait de ce réseau qui vous appartient ? Non, on l'a purement et simplement bradé, et ce réseau, il est tellement viable. Quand on nous dit que ça coûte cher le service public, il n'y a qu'à regarder les bénéfices faits par France Télécom, les dividendes qui sont reversés aux actionnaires qui s'en foutent plein les poches sur un réseau qui a été payé par les impôts des Français. Ça leur a coûté à un certain moment pour construire ce réseau qui est toujours assez performant. Bon, ça leur a coûté. Et maintenant, ça rapporte à des gens qui n'y ont pas mis un centime dedans. Et en plus de ça, ils sont mal servis, surtout dans nos régions. On nous a dit ça coûte. Oui, ça nous a coûté. Le réseau, il ne s'est pas construit tout seul. Et maintenant, ça nous coûte pour engraisser des actionnaires.
Je suis prêt. L'équipe libérale est prête. Nous sommes prêts. Prêt pour créer la charrue, charrette, charnée, char, tout en char, puis la charpente de la maison qu'on a mis 40 ans à bâtir. C'est pour toi que militer pour Amir Kadir. Maintenant, la table est mise pour 4 ans à partir. À part lire à vue d'œil à Uri à la vue. De la bande d'abrutis qui brandent abris d'abattus. Qui vendent à rabais par la bande. Que pas de prix, une fois le monde a fini de payer sans d'un abatti. Coupe sombre, coupe en blanc, coupe gris.
Alouette, je t'ai plus marré.
Puis pour couper courou populaire. Bat ta bouffe et tout, la foule et légifère. À tombeau ouvert, puis tout sourire, ça la soupe populaire.
C'est ça être solidaire quand on a sacré toute la terre.
Afin de faire taire un argumentaire, une écantaire. L'Amérique fait son affaire. Ça fait même trop l'affaire. Des régions d'affaires. Du Canada, puis du conseil du patronat. Baillon, pas baillon, je raille pareil. Le patron des patrons.
Ça y est, le taillon.
C'est le démantèlement tellement. T'excites tellement que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comment t'aimes le temps d'avoir des barbares. Dans tes tympans d'avoir un gars.
Face à la menace de la braderie, on brandit le poing de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la braderie, on brandit le poing.
Hop.
Ça va, je suis dormi. Bonjour.
Ça va.
Ça va. Je vais mal dormir. Ah. Oh, c'est dur après les réunions. Je suis crevée aujourd'hui. J'ai fait un petit peu le point de ce que je dois dire à monsieur le député.
Alors là, justement, on monte à Saint-Amand, c'est ça?
Oui, c'est ça, Saint-Amand. C'est la commune où habite le député, André Chassaigne. Alors là, il est plus maire. Il est plus maire. Le maire, c'est son fils, actuellement.
Ah, route touristique Gaspard des Montagnes, là, on prend. Donc là, hop, on commence à monter. Pour aller vers Saint-Amand, c'est à 11 km.
11 km, voilà. Nous arrivons à Saint-Amand-Roche-Sabine. Alors, Saint-Amand, un peu plus de 500 habitants. Il y a un collège qui est en danger, encore une poste, et puis des écoles, elles existent toujours, les écoles primaires. Nous avons encore une pharmacie. Une gendarmerie.
Ah oui, là, la poste est ouverte.
Elle est ouverte, là. Il y a un restaurant qui s'est ouvert. Et puis une boulangerie un peu multiple rurale. Je ne sais pas si on peut se garer, là. On va faire comme.
Là, la mairie,
elle est juste là, derrière.
On assiste, avec la révision générale des politiques publiques, actuellement, une véritable hécatombe qui touche tous les domaines des services publics. Mais c'est quelque chose qu'on peut... Ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si on mesure l'entreprise de démolition. Quoi. Moi, je me dis, est-ce qu'on imagine ce qu'on dira dans 50 ans sur la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Est-ce qu'on imagine ça? Qu'en l'espace de quelques années, on aura laissé faire, s'il n'y a pas des réactions à la hauteur, on aura laissé faire un démantèlement complet de décennies de construction, de conquête sociale, d'acquis. Tout ça est en train d'être jeté par terre, mais à une vitesse incroyable. On a une forme de décivilisation, parce que c'est ça, c'est une décivilisation aujourd'hui. C'est-à-dire que derrière tout ça, c'est une société de marchandisation complète, où ce qui actionne la société, c'est pas l'humain, c'est pas l'humain. C'est l'approche comptable avec deux objectifs. Premier objectif, c'est limiter les dépenses publiques parce qu'on considère que l'argent doit servir à autre chose que répondre aux besoins. Et comme on a beaucoup besoin d'argent pour accompagner les multinationales dans leur folie, dans leur folie de financière en particulier. Donc il faut limiter les dépenses publiques qui se manifestent par les services publics. Et d'un autre côté, c'est aussi offrir sur un plateau des services à la marchandisation de façon à ce que le privé puisse se saisir de ce qui est abandonné par le public. Avec l'ouverture à la concurrence, forcément, les groupes privés qui se mettent par exemple sur la distribution du courrier, vont prendre les secteurs qui sont les secteurs les plus rentables, notamment en direction des entreprises ou dans des villes où il y aura des pans entiers de la distribution du courrier, là où ça rapporte de l'argent, parce que là où véritablement il y a beaucoup de population, de grandes masses de courriers ou des grandes entreprises, les entreprises privées vont se saisir de ce marché-là, mais par voie de conséquence, restera à la poste, aux opérateurs qui sont des opérateurs publics ou semi-publics maintenant, uniquement les secteurs qui seront les secteurs non rentables. Donc par la force des choses, ces décisions d'ouverture à la concurrence vont conduire mécaniquement à l'abandon de services dans des territoires tels que les nôtres. Est-ce qu'on est capable, nous, de faire cette démonstration-là? C'est ça notre responsabilité aussi, quand on mène des combats sur le terrain, pour dire oui, mais attention, si on vit ça chez nous aujourd'hui, c'est bien parce que il y a eu des choix politiques qui ont été faits dans cette direction-là, et on retombe sur le capitalisme, sur le pouvoir de l'argent, sur la marchandisation du monde.
Et à partir de là, il faut bien qu'on fasse comprendre que ce n'est pas une fatalité, que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a eu des décisions politiques et une certaine conception de la société, une certaine philosophie de la société, en fait. Les gens comprennent de plus en plus qu'on est dans cette machine infernale. Il y a un rejet de plus en plus massif, une colère qui monte par rapport à ça. Il faut qu'on ait des mesures véritablement de transformation de la société. Seulement, sinon ça va péter de tous les côtés, j'en suis persuadé. Soit ça pètera de tous les côtés, ça pètera de tous les côtés, ou alors ça sera la porte grande ouverte à l'extrême droite et tout ça, si on ne prend pas ces mesures-là.
Merci André Chassaigne, Sophie Boissière, Michel Laurent, le docteur Prat. C'était un reportage de Charlotte Perry. On retrouve la suite demain. Merci aux amis de Débat, D-E-B-H-A, et du CDDSP, Collectif de Défense et de Développement des Services Publics, à lire L'État démantelé, enquête sur une révolution silencieuse sous la direction de Laurent Bonelli et Willy Pelletier, publié à Audition de la Découverte en septembre 2010. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis c'est demain, jeudi 10 mars, qu'aura lieu notre enregistrement mensuel avec le monde diplomatique sur le thème du réveil arabe avec l'Orchestre National de Barbès qui nous accompagnera. Ce sera à 18h à la Java 105 rue du Faubourg du Temple à Paris. Et pour venir nous voir et participer à cet enregistrement, vous pouvez taper le diplo à la Java, le diplo à la Java, tout en minuscule, tout attaché, @gmail.com pour vous inscrire. C'est Sandrine Laurent et Philippe Duclos étaient à la technique aujourd'hui. Coyen Nguyen et Franck Allerer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la base du au 01 56 40 37 37. Réclame.